Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
La Caritas pourrait revenir en Somalie, les négociations sont en cours. L'organisation caritative catholique veut aider les Somaliens à surmonter la terrible sécheresse de l'an dernier. Selon la FAO, chiffre saisissant, effrayant, 260 000 Somaliens sont morts de faim à cette époque. Défendre le modèle libanais, prier pour la relance des pourparlers israélo-palestiniens et surtout apporter une aide accrue aux Syriens, aux réfugiés notamment, c'est de tout cela qu'ont parlé le pape et le président libanais ce vendredi matin au Vatican. Et puis enfin bilan de 3 jours de discussion à Londres selon le Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Le dialogue avec les musulmans requiert certes une vraie disponibilité d'écoute, une meilleure connaissance de l'autre, mais surtout une claire identité religieuse. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission en langue française de Radio Vatican. Comme son prédécesseur, François se montre attentif aux problématiques en cours au Moyen-Orient, à l'écoute des responsables politiques de cette région du monde. 3 jours après avoir reçu le président israélien, le prix Nobel de la paix Shimon Peres, le pape François s'est entretenu ce vendredi matin avec le président libanais, le catholique maronite Michel Sleiman. Ensemble, ils ont parlé pendant 25 minutes du Liban, de la Syrie et des chrétiens d'Orient. Bernard de Cotigny.
Le Liban, un modèle à protéger. Pape et président libanais se sont accordés pour souligner l'importance du dialogue et de la collaboration entre les membres des diverses communautés ethniques et religieuses qui composent la société libanaise et en constituent sa richesse. Condition nécessaire en vue du bien commun, du développement et de la stabilité du pays. À ce titre, le pape a exprimé ses souhaits les meilleurs pour la formation du nouveau gouvernement appelé à affronter d'importants défis au niveau national et international. On pense à la situation voisine et explosive de la Syrie et les deux hommes n'ont pas manqué d'en parler, préoccupés particulièrement par le nombre croissant de réfugiés syriens. Pour eux, comme pour l'ensemble de la population syrienne en souffrance, le pape a souhaité une assistance humanitaire accrue avec l'appui de la communauté internationale. Pour le pape François et Michel Sleiman, pour obtenir la paix et la stabilité régionale, la reprise et rapide des négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens est toujours plus nécessaire. Ils l'ont espéré avant d'évoquer enfin la délicate question des chrétiens du Moyen-Orient, soulignant la contribution que ces chrétiens peuvent apporter à la lumière de l'exhortation apostolique issue du synode de 2010, un important point de référence pour les communautés catholiques et les sociétés de la région.
Le pape François confirme l'élection de Nicolas Antipa en tant qu'archevêque métropolite de Bosra et Oran des Grecs Melkites en Syrie. L'évêque élu né à Alep en 1945 a prononcé ses vœux religieux en 1964 avant d'être ordonné prêtre en 1971. Il était jusqu'ici professeur près de l'Institut de théologie d'Arissa et l'Institut d'études théologico-pastorales de l'archiparchie melkite de Beyrouth au Liban. Interrogé par Olivier Tosserie, il réagit peu avant de rejoindre son diocèse en Syrie.
Je pense parmi ses responsabilités, une des premières, c'est l'annonce de la parole de Dieu, l'expliquer et puis évidemment la vivre. Donc c'est pourquoi l'évêque est spécialement l'homme de la parole. C'est celui qui est le responsable donc de la parole de Dieu en lui avant tout, dans son diocèse.
Deux évêques ont été enlevés récemment en Syrie. Est-ce que cela vous fait peur? Est-ce que cela suscite des appréhensions?
Il faut être un super homme pour ne pas sentir enfin cette peur. Mais quand même, je sais qu'il y a toujours des dangers dans la vie, dans n'importe où nous sommes. Même un homme, disons, en bonne santé, en marchant, il pourrait avoir un arrêt cardiaque et voilà, ça, il tombe et il est foutu. Donc, par conséquent, il ne faudrait pas toujours penser donc à tout ce qui est négatif, mais il faudrait être bien sage, faire attention et spécialement, je pense, mettre sa confiance en Dieu. Ce que je sais, avant tout, l'homme d'église ici en Orient L'important est qu'il soit parmi son peuple, tout près de son peuple, vivre avec eux et vivre de ce qu'ils vivent et comment ils doivent vivre et leur donner l'exemple, enfin, de vivre en tant que chrétien et essayer de les exhorter à vivre comme des chrétiens vers la sainteté.
Comment le pape a-t-il reçu le don de la foi ? Ce vendredi matin, lors de la messe quotidienne dans la chapelle Sainte-Marthe, le pape s'est excusé de raconter une anecdote personnelle. Petit enfant, a-t-il raconté, ma grand-mère m'emmenait chaque vendredi saint à la procession des chandelles. Et à la fin de la procession, arrivait le Christ gisant, ma grand-mère nous faisait tous agenouiller et nous disait « Regardez, il est mort, mais demain il sera ressuscité. C'est comme cela que j'ai eu la foi. » Si le pape a raconté cette histoire, c'est pour expliquer combien il est parfois simple d'avoir le courage de transmettre sa foi, car c'est l'exhortation lancée par le pape ce vendredi. Tous les chrétiens ont le devoir de transmettre la foi avec courage. Ils ne doivent pas être tièdes dans l'annonce de l'évangile, ni dans leurs prières. Le pape François a également remercié les gardes suisses qui assistaient à cette messe pour leur témoignage de fidélité à l'Église, leur témoignage d'amour envers le pape. Et puis on reste au Vatican, au lendemain de son tête-à-tête avec le cardinal Angelo Amato, le préfet de la Congrégation pour la cause des saints, le pape François a autorisé ce vendredi le dicastère a promulgué 4 décrets reconnaissant notamment 2 miracles, celui d'abord attribué à l'intercession de la vénérable Marie-Christine de Savoie, son portrait Thomas Chabol.
Née en 1872 en Sardaigne, Marie-Christine était la fille de Victor Emmanuel Ier de Savoie, dynastie à laquelle ont appartenu les rois d'Italie au XIXe et XXe siècle. En 1832, elle épousa Ferdinand II, roi des deux Siciles de la dynastie Bourbon. Très pieuse, elle lutta contre la peine capitale alors très courante à Naples. Elle mourut à l'âge de 23 ans dans la cité parthénopéenne après avoir accouché d'un fils unique, François. En 1859, le Vatican la proclama vénérable. Marie-Christine de Savoie viendra s'ajouter aux nombreux souverains européens élevés à la gloire des autels au cours des siècles. D'autres reines ont en effet été canonisées, Marguerite d'Écosse, Edwige de Pologne ou Élisabeth du Portugal. Quant à la famille Savoie, elle compte déjà 2 bienheureux et 2 vénérables.
Et puis l'autre miracle est attribué à la mystique Maria Bolognesi, une laïque italienne décédée maintenant il y a 33 ans. Elle fut possédée par Satan pendant 2 ans, de 1940 à 1942, avant finalement de parvenir, malgré d'affreuses souffrances, à se confesser et à communier, se croyant sur le point de mourir. Sa communion la sauva et elle voit le reste de sa vie aux pauvres et aux malades. Et puis, outre l'attribution de ces 2 miracles, le pape a reconnu également les vertus héroïques de 2 serviteurs de Dieu, un prêtre espagnol et une religieuse polonaise, première étape vers leur béatification.
Familia, comunidad de amor, llamada a transmitir la fe.
Petite prière pour le mois de mai. Dans un tweet publié ce midi sur son compte Twitter, le pape dit qu'il serait beau de réciter en famille le rosaire pendant le mois de Marie. Selon le pape, la prière renforce encore plus la vie de famille. Et puis concernant la défense de la famille, le combat continue pour les opposants au mariage pour tous en France. La loi légalisant le mariage entre personnes du même sexe a été adoptée, votée, mais il ne lâche rien. Le collectif La Manif pour tous appelle ainsi à plusieurs sites de protestation ce dimanche 5 mai à Paris, Montpellier, Rennes, Lyon, Dijon, Lille, Amiens ou Toulouse. Et puis signalons la naissance à Rome d'un groupe de veilleurs. Première manifestation, premier sit-in pacifique, mercredi prochain au cœur de la ville éternelle. Ce vendredi, fin de la rencontre du Conseil des conférences épiscopales à Londres, fin de l'analyse des relations entre chrétiens et musulmans en Europe. Présidée par le cardinal Jean-Pierre Ricard, l'archevêque de Bordeaux, la rencontre comptait une 30aine de participants représentant quelques 20 conférences épiscopales d'Europe ainsi que celle du cardinal Jean-Louis Torrent, le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux et de Mgr Vincent Nicholls, archevêque de Westminster, président de la conférence épiscopale d'Angleterre et du Pays de Galles. Parmi les les thèmes abordés à Londres, les fondements du dialogue islamo-chrétien, les avancées de ce dialogue, les constructions identitaires des jeunes musulmans et chrétiens en Europe et les défis pastoraux qui s'y rattachent. Pour Erwin Tanner, le secrétaire général de la conférence épiscopale suisse présent à cette rencontre, le dialogue requiert pour les jeunes chrétiens certes une vraie disponibilité d'écoute, une meilleure connaissance de l'autre, mais surtout une claire identité religieuse. Il est interrogé par Manuela Afidji.
La construction d'identité musulmane est assez complexe. On ne peut pas parler simplement d'un niveau européen, parce que les situations dans les différents pays est vraiment diverse. Si vous vivez en France, qui a un système de laïcité, c'est différent d'un système, par exemple, qui est en Bosnie-Herzégovine ou bien au Kosovo. Donc les jeunes musulmans et musulmanes essayent de vivre leur propre identité, rester fidèles à leur religion, mais en même temps, il y a une différence entre ce qui prescrit ou prévoit l'islam et puis ce qui attend la culture politique et sociale d'un pays européen. Donc ils vivent un peu entre deux cultures, ce qui n'est pas tellement ou toujours facile pour les jeunes. Et puis on a peut-être deux tendances, ce que je constate aussi personnellement. Il y a des jeunes qui trouvent leur salut, entre guillemets, dans la tradition islamique, et puis d'autres qui ont de la peine avec cette tradition. Donc une chose constatée depuis longtemps déjà.
Vous avez parlé de la construction identitaire des jeunes musulmans. Qu'en est-il de la construction identitaire religieuse des jeunes chrétiens, des jeunes catholiques ?
Par rapport à cette question, je dirais qu'il faut absolument accompagner les jeunes chrétiens. Donc ça veut dire qu'il y a un grand travail encore à faire de l'Église. Il faut prendre au sérieux les problèmes que les jeunes chrétiens ont aujourd'hui. Peut-être chez nous, il y a un individualisme qui prime. Chacun se croit être indépendant, autonome. Mais pour avoir une conviction claire et puis pour se sentir porté par la communauté chrétienne, l'Église doit faire un accompagnement spirituel et pastoral de ces gens-là. Et puis prendre aussi très sérieux les problèmes qu'ils ont.
Quels sont ces problèmes d'une manière générale ?
Il faut renforcer l'identité chrétienne, notamment la foi catholique. Et une chose que je constate aujourd'hui, les jeunes, ils savent de moins en moins de leur propre religion. Donc l'Église doit investir beaucoup à la formation des jeunes, doit accompagner les jeunes dans les écoles publiques, doit faire une catéchèse assez pointue et puis claire. Ce qui est à améliorer aujourd'hui, c'est la formation spirituelle, la formation théologique de ces jeunes. Les jeunes n'ont pas une identité claire, pas une conviction claire de leur propre foi. Donc c'est là où le dialogue peut déjà échouer.
Vous dites que les catholiques doivent développer une identité plus forte. Est-ce que ça ne risque pas justement de déboucher sur une espèce de concurrence d'identité et de crispation identitaire ?
Moi, je pense que le plus grand problème, c'est de n'avoir pas une identité claire, parce que ensuite vous avez un amalgame entre différentes religions et un syncrétisme et qui finalement ne sert à rien. Donc le dialogue entre les cultures reste à un niveau assez général. Tandis que si vous êtes convaincu, si vous avez une position claire, donc là vous pouvez entrer en discussion avec les autres. Et puis peut-être c'est pas mal de montrer, notamment dans des pays de l'Europe, que l'Église catholique représente une position claire, parce que ça va de pair, être convaincu, être en dialogue, être porteur d'un message. Donc il faut trouver maintenant un équilibre entre le dialogue et puis la question de la mission. Donc jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'on a discuté, on a dialogué avec les gens sans avoir le courage d'annoncer, proposer aussi la foi dans ce dialogue. Moi, j'ai l'impression que les musulmans ont toujours fait dans le dialogue, ils nous ont proposé leur position de foi, et puis les chrétiens n'ont jamais osé présenter leur propre position de foi. L'heure est venue de ne pas simplement parler pour parler, mais aussi d'avancer et puis de proposer sa foi. Et puis sur ces points de vue, on peut échanger ses propres opinions sur les deux identités religieuses.
Direction l'Afrique, à Brazzaville. Le sommet des pays d'Afrique centrale cherche en ce moment une solution à la crise centrafricaine. Ils discutent notamment de l'augmentation du nombre de soldats de la FOMAC, la mission militaire africaine présente en Centrafrique. Ils voudraient faire passer ses effectifs de 500 à 2000 militaires, car sur place, les rebelles du Séléka, certains rebelles se montrent encore incontrôlables. Ils poursuivent leurs exactions. Ainsi, dans le village d'Ouango, à la frontière avec la RDC, des rebelles ont incendié ce jeudi 400 maisons, tuant 9 personnes à coups d'armes à feu ou de machettes. Ils ont également mis à sac l'église catholique du village, profanant le tabernacle. Ces rebelles de langue arabe frappent surtout les chrétiens et rapportent l'agence MISNA. Sur place, les musulmans sont véritablement désolés de la situation. Ils tentent de faire œuvre de médiation afin de faire cesser les violences et les saccages. De leur côté, les responsables de la Séléka, aujourd'hui au pouvoir, prennent en ce moment des mesures pour contrôler leurs propres troupes. Un chiffre effrayant diffusé ce jeudi par la FAO, l'organisation onusienne. Près de 260 000 Somaliens, dont une moitié de jeunes enfants, sont morts de faim entre le mois d'octobre 2010 et le mois d'avril 2012. C'est le bilan d'une terrible famine, un taux de mortalité 2 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, 1 an après la période la plus critique, la FAO dresse un bilan. Si l'état de famine déclaré en juillet 2011 a suscité une aide humanitaire massive, cette aide n'est pas arrivée assez rapidement. Palmira Cacciarelli, responsable de la planification pour la Somalie au sein de la FAO, est interrogée par Antonino Gallofaro.
Les pluies ont été très rares. Il y a une augmentation des prix des céréales au niveau global. Il n'y a plus eu de demande de travail, justement parce qu'il n'y avait plus de travail dans les champs. Il y avait déjà les populations touchées par le manque d'aide dans le sud du pays à cause des problèmes de sécurité liés au Shebab, qui ont interdit les opérations d'aide humanitaire, déjà en 2009. Pendant 2 ans, cette région n'a pratiquement pas reçu d'aide alimentaire. Dans la majorité des cas, on ne meurt pas à proprement parler de faim, mais de maladies consécutives à des mois de malnutrition. On combine tout cela avec des facteurs naturels et en février 2011, on est arrivé à une situation de pic.
Vous avez déclaré l'état de famine en juillet 2011. L'aide humanitaire de ce que vous qualifiez de pire crise en 20 ans, est-ce qu'elle a été à la hauteur ?
L'aide a été massive, assurément. On a réussi en l'espace 1 an et demi à réduire un niveau d'insécurité alimentaire très grave de 4 millions à 1 million de personnes. Et de fait, la famine a été déclarée terminée en février 2012. Il y a donc bien eu une réponse importante, mais pas encore assez. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est arrivée trop tard. Avec les instruments dont on dispose aujourd'hui, la communauté internationale est en mesure d'anticiper tout cela. On peut anticiper tous ces morts, on peut anticiper une telle catastrophe. Il faut répondre plus rapidement. Les donateurs doivent prendre plus de risques pour investir de l'argent dans les situations de grande fragilité. Quand il y a des signaux qui montrent que la situation se détériore, la première réponse doit être immédiate. On ne peut pas attendre les déclarations officielles ou les situations de pic. C'est le message fondamental, la leçon qu'il faut tirer de cette famine. La famine la plus grave de ces 20 dernières années. On n'a jamais rien vu de semblable ces 20 dernières années. Ce qui est scandaleux, c'est qu'aujourd'hui, en 2013, avec tous les systèmes d'alerte qu'on a, on ne réussit pas encore à anticiper ces catastrophes. Ce n'est pas humain, c'est moralement injustifiable.
Les blessures causées par la sécheresse et le conflit ont laissé des marques visibles sur les corps et les visages des personnes, surtout sur les femmes et les enfants, comme ceux qui occupent encore en tant que déplacés la cathédrale de Mogadiscio. C'est ce qu'a déclaré à la MISNA Mgr Giorgio Bertin, racontant ce qu'il a vu lors de ses dernières visites dans la capitale somalienne. L'évêque de Djibouti et vicaire apostolique de Mogadiscio, en tant que président de l'organisation Caritas Somalie, ainsi que plusieurs représentants d'ONG italiennes et d'antennes de l'ONU, ont rencontré ces derniers jours les autorités du nouveau gouvernement somalien afin d'instaurer un dialogue, dialogue susceptible de permettre ensuite assez rapidement la reprise des activités de la Caritas en Somalie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, pour un prochain magazine. N'hésitez pas d'ici là à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va.